Okay. Est-ce qu'on est prêt pour un message? Wow, on est fortifié. Okay. Wow. Diego, est-ce que je peux demander un service? On va lire Hébreux chapitre 10, versets 22 au 25. Hébreux chapitre 10, 22, 23, 24 et 25. Donc, oui, nous avons sur l'écran.
Hébreux 10, 22 à 25. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
Prions. Seigneur, merci pour ta grande fidélité dans nos vies. Tu es le même hier, aujourd'hui. Et pour l'éternité. Et tu parles au travers de ta parole et tu témoignages, tu as un témoignage dans ton église, un double ou trouble témoignage, Seigneur. Tu communiques au travers de la parole, au travers du pupitre, au travers de les croyants chacun. Et ce matin, tu as un message pour nous. Ouvre ma bouche afin que je puisse exprimer les merveilles de ta parole. Ouvre nos yeux de nos cœurs afin qu'on puisse regarder et voir les merveilles de ta parole, Seigneur. Merci. Conduis ce message. Amen. Hébreux, le livre de Hébreux. On a parlé de ça. Dans un semestre d'institut biblique, et je sais que j'ai déjà abordé ce thème plusieurs fois, mais je vous encourage moi-même aussi de ne pas être familier avec la parole de Dieu. Quand on dit que nous avons lu quelque chose et on connaît le verset, on ne connaît pas en réalité. Parce que chaque fois que c'est manifesté par l'Esprit de Dieu, il tourne et révèle quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. C'est pourquoi on va passer éternité de gratter, on ne va jamais arriver de la fond de la parole de Dieu, la profondeur de la parole. On va passer éternité de découvrir sa bonté, sa fidélité, son amour. Donc, pour commencer, le livre de Hébreux est écrit par un auteur qu'on ne connaît pas. Le nom n'est pas donné. Peut-être c'est Paul, peut-être c'est Tite, peut-être c'est Timothée, peut-être c'est Barnabas. Ce n'est pas important. On sait une chose. Le Saint-Esprit a écrit le livre de Hébreux. C'est inspiré. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était écrit d'un groupe de croyants avec une origine juive. Ils sont d'origine juive. Hébreux. Donc, il a une très bonne connaissance dans ce livre de Lévitique dans l'Ancien Testament. Tous les sacrifices nécessaires pour honorer Dieu. Et nous avons clairement un fil rouge qui passe entre les pages du livre de Hébreux qui communique vraiment le cœur de Dieu et l'accomplissement en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le meilleur. Donc on voit avec le premier chapitre, il est mieux que les prophètes. Après ça, on voit qu'il est mieux que Josué, mieux que Moïse. Donc chaque fois, l'autre est en train de construire une argumentation, d'expliquer Jésus-Christ est la fin de la loi. Il est l'accomplissement de la loi. La deuxième chose qu'il faut savoir, et de connaître que ces croyants sont un problème. Ils sont toujours accrochés à le judaïsme. Ils sont accrochés de l'Ancien Testament. Ils ont retourné pendant la persécution, parce que les Juifs ne sont pas persécutés, mais les chrétiens sont une secte à part. Ça, c'est le regard, bien sûr, par les autorités romaines, par les autorités séculaires qui regardent les chrétiens comme une menace, comme un danger pour quelque chose qui va déstabiliser la société, bouleverser la société. Et donc, sous la pression de persécution, ces croyants, ils ont retourné de l'Ancien Testament parce que là-bas, avec les Juifs qui ne sont pas acceptés Jésus, il peut être secure, pas persécuté, pas attaqué. Donc, il peut continuer de faire des sacrifices. Et ça, c'est le problème. Une fois et pour tous, sur le quoi il est un sacrifice, l'agneau immolé avant la fondation du monde était immolé pour nous. C'est le seul sacrifice qui se fait et Jésus-Christ a accompli tous. Donc, ce n'est pas nécessaire de retourner de l'Ancien Testament. Donc, un peu plus le contexte de ce message ce matin. Dans un problème, une problématique d'être persécuté, d'être sous la pression de la société, est-ce que ça c'est quelque chose qui pour nous, on peut identifier? Aujourd'hui, on peut identifier la pression de conformer dans notre société, d'être comme chacun et de pas... commence à être caché et dire, nous sommes chrétiens, mais on ne va pas parler de ça. On va rester en silence. On va garder notre foi dans nos cœurs. Des fois, on croise les gens qui disent, on dit, est-ce que tu as une foi? Est-ce que tu as une religion? Est-ce que tu as une croyance? Et les gens disent, oui, mais c'est très personnel et je garde ça pour moi-même. Et j'entends de cette argumentation et je connais très bien et je peux dire, oui, je comprends pourquoi que tu ne vas pousser ça. Mais c'est une argumentation fausse. Pourquoi? Parce que ce qu'on croit, on va vivre. Ce qu'on vit, on va manifester et les autres vont voir. On ne peut pas cacher ce qui est dans nos cœurs. Si on croit... Si quelqu'un croit dans le football, il va parler sans cesse de le football, n'est-ce pas? Si quelqu'un aime les sports, il va manifester ça dans chaque parole. Parce qu'on aime Jésus et il est dans nos cœurs, on va vivre ça. Ça va être évident et ça va sortir. Et maintenant, on arrive de ces points. L'auteur, dans ce chapitre, est en train de communiquer un message très important. C'est une exhortation. Il y a quelques exhortations dans le livre d'Hébreux et on arrive en chapitre 10 d'une exhortation très importante. Exhortation est une consolation. Exhortation est un encouragement. Exhortation parle de donner le courage à quelqu'un qui n'a pas le courage. Le mot en grec parakaleo, parakletis. C'est quelqu'un qui est le consolateur, c'est le ministère de le Saint-Esprit. On a déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Quelqu'un qui marche à côté avec nous dans nos vies. Donc, quelqu'un qui exhorte et quelqu'un avec une bonne parole à propos pour chacun de nous. Ce n'est pas juste pour ceux qui ont vécu 2000 ans en arrière. C'est maintenant, on est assis dans nos sièges, on est assis ici. Mais Dieu a dit, il y a une parole pour nous aujourd'hui. Et c'est important. Le premier, il faut savoir dans chaque verbe, c'est des verbes qui parlent dans le plural. Nous, ça c'est important. Nous, approchons-nous. Nous, pourquoi nous? Parce que l'auteur est aussi inclus dans le message. Il n'a pas dit « vous ». Pas vous et moi, je ne suis pas partie de ça. Non, nous. Pourquoi que ça c'est important? Parce qu'il est dans le même danger. Il est dit, je suis en risque de aussi la même chose que je communique à vous. Et c'est pourquoi le pasteur, les prédicateurs, on parle de nous et pas juste de vous. Parce que je suis un membre de l'Église. Je suis un pécheur sauvé par la grâce. Je suis quelqu'un qui vit la même vie. On est tous dans le même niveau. Je suis sur un pupitre et sur un strade pour la raison, pour visibilité, pour communication. Mais nous sommes ici de le même niveau. Il n'est pas une super spiritualité dans le royaume de Dieu. Chacun risque et vit la même vie. On a les mêmes problèmes, on souffre le même. Notre sang est rouge quand on est blessé. On a les mêmes problèmes. On a problème de santé, problème de finances. On vit les mêmes choses. Quelqu'un qui amène une idée qu'ils sont plus supérieurs que les autres, c'est faux. Chacun de nous, on est égal devant lui. Approchons. Les sacrifices sont préparés et lavés et le sang aspergé. Quand Aaron était préparé pour être un sacrificateur, il était oint et il était aspergé par le sang de le sacrifice. Pourquoi qu'on peut approcher Dieu? Parce que nous sommes lavés par le sang de Jésus-Christ. La conscience, on va arrêter là-bas. La conscience est ce qui trouble l'homme. Certains sont en conscience cauterisée. Ça veut dire brûlée. Il n'y a pas un sens de sensibilité. C'est brûlé maintenant. Comme si j'ai un brûleur sur mon peau. Je n'ai pas la même sensibilité dans le peau, dans cette partie, de l'autre partie. Donc, pas de douleur, pas un sens. Ça veut dire que la conscience ne marche plus. Quelqu'un peut faire des choses qui sont dangereuses. Quelqu'un peut faire des choses qui vont être dangereuses pour l'âme, pour les autres, pour la société. Mais pas avec quelque chose qui empêche la conscience. On ne va pas être contrôlé, dirigé par notre conscience. Donc on a besoin d'avoir une conscience qui fonctionne bien. Peut-être je vais prendre une chaise si je peux. Merci. Donc la conscience a besoin d'être lavée et purifiée. Et Jésus a fait ça parce que les gens vivent avec une conscience, ils sont coupables. Ils vivent. Combien de gens vivent? Ils ne dorment pas. Il y a des problèmes de relation. Parce qu'ils sont en train de vivre consciemment avec une culpabilité. Donc ils essaient de faire des choses pour plaire les autres. Et Dieu est en train de dire que ce n'est pas nécessaire. Quand la conscience est lavée et purifiée maintenant par le sang de Jésus-Christ, on a une conscience qui fonctionne bien. Si on a un petit problème avec la conscience, c'est un avertissement. Et bien sûr, il y a une résolution devant lui. Confesser nos péchés, il est fidèle et juste pour accepter, pour nous pardonner. Parce que tout était payé, mais c'est une question d'accès à lui. Et bien sûr, la conscience va fonctionner bien de nouveau. Donc, nous n'avons maintenant aucun empêchement d'approcher le trône de la grâce en Hébreux chapitre 4, verset 16. On peut approcher à lui sans un sens. Est-ce qu'il va être en colère avec moi? Non, il ne va pas être en colère avec moi. Maintenant, je le dois, comme un enfant de Dieu, d'approcher. Je ne peux pas accéder. Le souverain sacrificateur ne peut pas accéder sauf pour un jour seul dans l'année. Yom Kippour, le jour d'expiation, quand il est préparé et les sacrifices sont préparés, il peut entrer dans le lieu très saint, dans le tabernacle, dans l'Ancien Testament. Mais nous avons passé une autre dispensation. Et maintenant, parce que le sacrifice et le sacrificateur, le même Jésus-Christ, sont déjà réglés devant le Père, nous avons le droit d'accéder. On peut oser de demander des choses à Dieu. Si on vit avec une conscience coupable aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vivre comme ça. Personne, ce n'est pas nécessaire de vivre avec une conscience coupable. C'est peut-être réglé dans une seconde, comme ça. Et quand nous avons réglé la conscience avec lui, par exprimer le sang de Jésus-Christ, une conscience pure, on peut dire, « Ok, Seigneur, la conscience est maintenant tendre, la conscience est sensible. Je peux dire, « Ok, Seigneur, je le dois d'accéder et je le dois maintenant d'œuvrer pour toi, pas motivé par une culpabilité de mes péchés passés. Je peux maintenant marcher dans la nouveauté de la vie, poussé par la grâce de Dieu, en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, motivé par l'amour, en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 12. L'amour me presse, je reste poussé par l'amour de Dieu. Je ne suis pas poussé et motivé par la culpabilité, un grand problème pour l'humanité. Mais on ne vit plus avec ça, on vit maintenant motivé par l'amour. Et ça, c'est une motivation, une très bonne motivation, parce qu'on est libre dans l'amour de vivre et exprimer lui-même. Donc la conscience purifiée, donc accès. Mon cœur est sincère, c'est une question de cœur. C'est toujours une question de cœur. Mercredi soir, on a parlé, et après on a fini le culte. Quelqu'un a posé une question de combien de fois que je dois fréquenter l'église, est-ce que je dois être là dimanche et mercredi et tous les jours. J'ai dit, c'est une question pas de présence, c'est une question de cœur. Parce que cette église n'est pas une question de membres avec une liste d'une association et quelques notes qui étaient présentes et qui n'étaient pas. C'est une question de motivation. On a déjà dit, culpabilité, non. Amour et grâce, oui. Ça veut dire que je suis redevable devant lui. Ça veut dire que je vais être motivé par lui. Ça veut dire que je ne vais pas essayer de plaire le pasteur ni les autres. Vous n'avez pas besoin ce matin de me plaire. Vous avez besoin de chercher lui et sa plaisir et pas mienne. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez et moi, vous ne connaissez pas ce que je vis non plus. Mais on voit qu'on a quelque chose en train de passer dans cette église. On voit le cœur et la chose qui a été demandée, est-ce que je dois être présent? Je dis, si le cœur est connecté, tu veux être présent. Ça, c'est la question. Ce n'est pas une question de je dois être là juste pour 25 minutes plus, après le pasteur va arrêter, après je peux boire un café. Non. La vie éternelle est une vie de plénitude et on n'est pas en train de penser de choses en arrière. La vie éternelle est une mesure de qualité du temps. Je suis plus focalisé de la présence de Dieu que je suis focalisé d'autres choses. Ma vie est en présence avec lui. Est-ce qu'on va oublier nos passés sur la terre quand on est devant la présence de Dieu pour l'éternité? Oui, parce qu'il va essuyer les larmes. Mais avant ça, on va voir le grand jugement, le blanc, grand tremblant. Et on voit les gens qu'on aime, et les gens qu'on a pris, et les gens qu'on a connus, et les gens qu'on ne connaît pas. Entrer en enfer, jugé par le Seigneur. On va voir ça. Et on va vivre après ça, bien sûr. Mais avant ça, on va avoir un rappel de le passé, n'est-ce pas? Quand on retourne pour le millénium, mille ans sur la terre, c'est avant le grand tremblement, on va avoir la possibilité de rappeler nos passés et nos erreurs, nos fautes, et nos mauvaises décisions, et nos bonnes décisions, et nos souvenirs. Et on va peut-être entrer dans une sentimentalité. Ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, on va oublier parce qu'on est focalisé sur lui. Quand on est avec quelqu'un qu'on aime, le temps passe rapidement. Pourquoi? Parce qu'on est plus concentré sur la présence de quelqu'un qu'on aime. C'est avec lui le même. On va passer l'éternité avec lui et on va passer le temps. Et c'est possible. J'ai vu ça dans une conférence. On va passer un temps dans une conférence bientôt, la semaine prochaine. Et dans la conférence, est-ce que vous pouvez imaginer à Uricon ou à Budapest ou Baltimore ou comme vous voulez, je suis en train de focaliser sur les problèmes de ma vie? Non, parce que je suis plus concentré sur le fil de l'enseignement du Seigneur et sa présence. Je ne suis pas focalisé sur des choses qui passent à côté. Ça, c'est la vie éternelle. Les pensées sont engagées, la volonté est engagée, la conscience est pure, le cœur est motivé par l'amour. C'est ça. Approchons-nous maintenant avec un plein cœur. On peut être engagé avec un plein cœur, motivé par le bon cœur, le nouveau cœur de Ézéchiel chapitre 38, verset 28 et Jérémie chapitre 17. C'est un cœur, nouveau cœur. David a dit, purifie-moi, donne-moi un nouveau cœur, un nouvel esprit. Et c'est ça qui va être la motivation pour approcher le Seigneur. Un corps purifié, lavé par le sang, lavé aussi par l'eau de la parole de Dieu, lavé par le Saint-Esprit. C'est juste les pieds qui ont besoin d'être lavés nouveau parce qu'ils touchent la terre. Deuxième chose, après on approche Dieu, et c'est toujours le vertical qui compte premièrement. Toujours première connexion, première relation avec lui. Deuxième relation horizontale avec le corps de Christ. Deuxième verset, donc 23. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Il est fidèle qui a promis. Hébreux chapitre, non. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24 au 25. Fidèle est lui qui a commencé et qui va la finir. Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis pleinement persuadé. Encore, c'est le cœur qui est persuadé. Mon cœur était convaincu par lui et mes pensées vont réfléchir à ça, connecter qu'il est fidèle et c'est sur lui, pas sur quelqu'un d'autre. Persuadé par lui. Donc, on va tenir fermement. Tenir fermement à quoi? Est-ce que c'est 2 Timothée chapitre 1, verset 13 qui parle de le fait que Paul a dit, Timothée, ferme à la parole que j'ai prêchée. Retenir dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ. Le modèle, l'exemple des saintes paroles que tu as reçues de moi. Ça veut dire, Paul a amené un modèle, un exemple, la doctrine. La doctrine n'a pas commencé avec Paul, la doctrine a commencé avec l'Ancien Testament, avec Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1, est terminé avec Apocalypse. Ça veut dire que nous avons maintenant le plein conseil de Dieu en Actes chapitre 20, verset 24. Et nous avons maintenant la doctrine, les pensées de Dieu dans chaque sujet. Pourquoi que ça c'est important? Parce que la parole doit être communiquée au travers du pupitre et au travers de nos vies. On est dans les moments incertains dans ce monde. Il y a des tendances et des changements dans la société. Et les gens posent la question, est-ce que la foi chrétienne, est-ce que la Bible est pertinente pour aujourd'hui? Et notre réponse, la doctrine nous enseigne la sagesse pour vivre et prendre les décisions dans les moments difficiles, dans les moments incertains, dans les zones grises, qu'il n'est pas blanc ni noir. Ça va nous aider. Parce que si Dieu est le Dieu créateur de ce monde, il a la réponse de tout. Comme un pasteur qui a dit, Jésus est la réponse. Quelles sont les questions? C'est facile. Quand on commence avec lui, ce n'est pas important. les diversités de questions. La seule chose est de présenter devant lui. Ok, Seigneur, tu as la réponse parce que tu es la réponse. Approchons-nous, ok, verset 23. Peut-être on regarde 23 aussi. Retenons fermement. On garde et on défend la doctrine. Est-ce que vous avez rappelé une fois, on a fait un message sur le fait que Paul a dit « Je suis établi pour la défense de l'Évangile. Je suis positionné pour défendre. » Comme devant un, qu'est-ce qu'on dit, le football, le gardien protège contre un but. On est en train de défendre notre foi et nous sommes capables de défendre notre foi. Parce qu'on est bien enseigné de cette pupitre et dans notre ministère. Et c'est pas, je ne suis pas là pour critiquer les autres églises. Mais quand une église commence à placer plus de temps dans s'amuser et moins de temps d'enseigner clairement la parole de Dieu, on a un problème. Chacun de nous doit être convaincu de notre foi, conviction. Et comment être convaincu de quelque chose qu'on ne connaît pas dans la parole de Dieu? Ce n'est pas suffisamment de dire, la Bible parle de ça dans un endroit, je ne sais pas quoi. Il faut regarder le verset et dire, ok, j'ai une doctrine est formée avec trois ou plus versets. On a des doctrines sur chaque sujet et on doit accrocher ça parce que le diable travaille avec la confusion. La confusion. Et nous ne sommes pas un peuple confus parce qu'on a la lumière de Dieu, nous avons l'éclairage de Dieu. Comme le verset que j'ai cité en Psaume 119, les simples, les humbles, les gens qui sont plus simples sont rendus intelligents par l'illumination de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'intelligence de passer 4 ans dans une université séculaire. C'est la vraie intelligence spirituelle qui vient de l'enseignement de la parole de Dieu. On fait ça ici avec l'Institut biblique. C'est bien. C'est bien. Je vous encourage de réfléchir sérieusement sur ça. On est dans le dernier temps. Le diable veut que les chrétiens soient confus, confus sur la doctrine, indisciplinés, désorganisés. Et nous sommes disciples, n'est-ce pas? Donc si on est disciple, nous avons une discipline dans nos vies. On a une organisation, on a une façon de penser. Si ce n'est pas possible, pourquoi que nous sommes ici? Nous avons, voir la discipline, je vais juste donner une parenthèse, voir la discipline et l'organisation dans cette église. Les gens qui arrivent à l'heure, les gens qui préparent le sonneau, répètent pour le louange, les gens qui sont préparés pour l'accueil, voir la discipline. Nous avons les sièges positionnés comme ça. Ça, c'est une organisation, n'est-ce pas? Nous avons quoi positionné là? Nous avons tous peintres. Voir comment il y a une organisation dans la salle et c'est le même Dieu qui fait une organisation dans notre âme. C'est pas juste. Non, c'est pas expression et olé, olé. Non, c'est pas olé, olé.
Olé.
Non, c'est pas olé. Oui, je sais, c'est expression olé. Oui. C'est pas olé, c'est il est une organisation. Diego travaille avec les chiffres. Il fait des choses avec les chiffres. Il est une organisation, une calculation, il est une conclusion. C'est la même pour nos vies. Il amène nous par sa parole et prépare nos vies. Et on est conduit par la parole. Ce n'est pas le d'être vassif, d'être pris dans tous les vents, toutes les directions de doctrine, tout le flotter. Non, c'est une vie avec un parcours. Paul a parlé de ça. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Je cours. Je suis un boxeur et je ne fais pas avec l'air, je fais ça avec une discipline vers l'adversaire. Quand je fais le boxe, j'ai quelqu'un devant moi, je vais être concentré et ciblé, je vais avoir une discipline dans ma vie et enseigne mon corps. C'est la même, j'ai une concentration, je vois, je cours avec but pour finir, j'ai un but pour finir. Donc, ça, c'est verset 23, 24 de Hébreux chapitre 10. On a fait 22, 23, 24 maintenant. Donc, Hébreux chapitre 10, verset 24. C'est bien. Tu vois, il est neutre dans la prédication. C'est pas... Non. Il a une cible, il a une direction. Veillons. Maintenant arrive de le corps de Christ. Donc, on a commencé avec le vertical avec Dieu. Nous avons la parole de Dieu qui ne change jamais, qui est toujours la même. Donc, on est convaincu, on reste accroché de la parole de Dieu. On n'est pas en train de changer la parole de Dieu. Et maintenant, verset 24, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Vous. Veillons, nous, donc plural, c'est nous inclus, c'est pas juste une personne, chacun de nous. Veillons les uns sur les autres. Quelqu'un avec un problème, je viens à côté. Paraclétos, appelé à part pour encourager, ministère de la Saint-Esprit. Quel est mon appel? Quelqu'un a dit, je suis doué, j'ai beaucoup de dons spirituels. Oui, mais je vois la volonté de Dieu. Premièrement, 1 Thessaloniciens chapitre 5, reconnaissance en tout temps. C'est la volonté de Dieu pour toi, pour vous, Thessaloniens. Donc, c'est la volonté de Dieu pour nous aussi. D'être reconnaissant, de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ça. Ok, j'ai accompli mon ministère. Un ministère d'exhortation, un ministère de réconciliation, un ministère de remerciement. Un ministère de veille sur les autres avec une attitude d'aider. La chose caractéristique d'un croyant spirituel et sa vie est donnée. En anglais, on dit « the laid down life ». Quelqu'un qui porte la croix. Pas moi qui vis, mais lui qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est Jean chapitre 3, verset 33? Je dois diminuer. En plus, il doit grandir et moi, je dois diminuer en importance. Jean le Baptiste, mes applications dans nos vies, je prends moins d'espace. Je suis moins important. Lui, Jésus-Christ, est plus important. Verset 30, merci. Donc, on retourne. Maintenant, on est en train de veiller. Veiller et prier, Jésus a dit. Veillons sur les autres dans l'assemblée. Ce n'est pas juste le travail d'un pasteur. C'est un travail de nous tous. Et je sais que vous êtes en train de faire ça. Et moi, on essaie de faire ça comme une équipe ensemble. Quelqu'un est déprimé, on connecte, on parle, on dit, écoute, est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux aider? Nous avons une sœur en hôpital à ce moment. Elle a parlé avec ma femme ce matin. Elle m'a contacté hier. On a prié, Christina. Et je sais que vous êtes en train de prier. On est en train de prier pour elle. On a l'image de, c'est une très bonne image. Ibrahim a parlé de cette image. Ur, Moïse et Aaron sur une colline en train de voir Josué lutter contre le Midianite avec son armée. Et parce que Moïse ne peut pas faire ça tout le soir, toute la journée, et parce que c'est nécessaire pour lui de faire ça pour Israël de vaincre les ennemis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Robert, Horacio, est-ce que je peux demander votre aide?
Aaron, et Moïse. Et quand les bras sont comme ça, Israël dit, gagne.
Et quand c'est ça, les Midianites sont en train de gagner. Donc, qu'est-ce que c'est fait comme ça pour garder les bras ouverts? C'est un ministère d'intercession. On est en train de parler d'un ministère de prière. Quel est notre appel? Qu'est-ce que je peux faire dans l'assemblée? Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, vous pouvez prier pour les autres. Vous pouvez veiller sur les autres. Ça veut dire, merci beaucoup, merci Bouddha, ça veut dire d'avoir une attitude de regarder les autres. Comment je peux aider mon frère? Comment je peux aider ma sœur? Le Seigneur est en train de faire une œuvre dans nos cœurs, de tisser, de former, de construire chacun de nous avec l'autre. Ça veut dire, ça parle d'intimité, proximité, confiance. Et le Seigneur est en train de faire ça dans nos vies. Acceptons le travail du Seigneur. On n'est pas une île, on n'est pas isolé, on ne peut pas rester seul. Ce société veut faire ça, le diable veut faire ça, Christ ne veut pas faire ça pour le croyant. On est un peuple ensemble. L'histoire d'Israël, l'histoire de la Bible parle d'ensemble le peuple de Dieu, pas le croyant seul. Les épisodes que nous avons sur les prophètes seuls sont les exceptions uniques pour un moment. Ce n'est pas le normal pour le croyant. On n'est pas mis à part, isolé. On est ensemble. Et en plus, pour l'Église, l'Église est un organisme, pas une association. C'est un organisme de cœur connecté. Donc, regarde les autres. Et en plus, excité, le mot est aussi provoqué. Provoque les gens à la charité, aux bonnes œuvres. Quelle est l'importance, quelle est la manifestation, quelle est la caractéristique d'un croyant chrétien spirituel? Les œuvres manifestées, préparées par le Seigneur pour eux uniquement. Ephésiens chapitre 2, verset 10. Préparées par le Seigneur. Je suis fructueuse dans ma vie. Ma vie n'est pas stérile. Je ne peux pas avoir une stérilité dans ma vie, mais le Seigneur Dieu, je veux que vous êtes comme un arbre dans la maison de Dieu qui pousse le fruit dans la bonne saison. Ça, c'est le Seigneur veut. On peut demander, Seigneur, comment je peux être manifesté toi? Pas avoir une vie fructueuse, une vie de fruit, d'avoir un héritage dans ma vie. Quand ma vie est finie, quand la course a conclu, j'ai tracé mon chemin et j'ai laissé une trace éternelle sur la terre. Et on voit ça si on lit ou choisit de lire un livre d'un missionnaire, un homme ou femme qui était un exemple de la foi. Choisissons un livre dans la maison de Bible et voir l'héritage de la vie chrétienne. Combien de gens a tracé et marqué le chemin sur la terre? Ça, c'est une vie motivée par l'amour, avec une bonne conscience et en plus qui produit les fruits. Et quel est le fruit? Les conversions, les disciples, les gens sauvés, les gens touchés. On va passer l'éternité en train de parler avec les gens qui vont dire merci. Et on va dire, qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez dit un mot dans ma vie et ça m'a changé. Pasteur David Stamboski de Massachusetts, Lee, Massachusetts, en États-Unis, a cité un verset, Romains chapitre 4, verset 17, partie B. Dans ma vie, toujours là. Toujours là. Cet homme a changé ma vie. Il y a deux hommes exemplaires dans ma vie, Pasteur Texier et Pasteur David Stamboski. C'est des gens qui ont quoi, ils ont cru de la capacité, ils veulent un appel et m'encourager. C'est changer ma vie. Comment on peut faire pour les autres? Prochain verset, je vais terminer après ça. N'abandonnons pas notre assemblée. Les jours approchent, le Seigneur est en train de préparer pour son retour. Et quand il retourne, le monde ne va jamais être le même. Ce qui reste sur la terre, ça va être un monde complètement changé et pas pour le mieux. Ça, c'est clair. La Bible parle de la tribulation, les derniers 7 ans avec l'Antichrist. Ça va être une horreur sur la terre. L'Église enlevée. Ça veut dire Christ retourne pour son épouse. Il retourne pour nous. Il retourne pour le mariage. Et parce que nous avons ça en vous, et nous avons en vous aussi 1000 ans après sur la terre de régner avec lui, et on va tous aller à Jérusalem, donc mettez ça dans votre passeport, si vous voulez. On va passer un temps à Jérusalem, on va être sur la terre, on ne va pas avoir un corps physique, qu'est-ce qu'on peut dire, on va avoir un corps glorifié, spirituel, sans péché, sans mort, sans maladie, sans pleurs, sans... Voilà. Et bon, si on a voix devant nous, et on voit que la fin approche, est-ce qu'on peut finir bien? Paul a dit en Actes chapitre 20, je vais finir ma course avec joie. Ça veut dire qu'il ne va pas pleurer. Ça veut dire qu'il ne va pas être déprimé. Ça veut dire qu'il voit la joie devant lui. Il voit le Seigneur qui est prêt. Il a dit, le couron est déjà préparé pour moi. J'approche lui et j'ai une espérance et j'ai une joie parce que je vois le Seigneur qui va être là. Je me regarde fixé sur lui, Hébreux chapitre 12, verset 2. Ma regarde fixée. Donc, abandonnons pas. On ne va pas abandonner d'être ensemble. Rappelons, ce n'est pas une parole légaliste. Ce n'est pas il faut que l'Église de la grâce, que chacun doit être là. Non. On ne cherche pas les gens. On demande des fois si les gens sont absents. Est-ce que ça va? Ça va bien? Ce n'est pas pour amener la culpabilité, c'est simplement dire, vous êtes dans notre cœur. Si vous êtes dans notre cœur, on est intéressé de vos vies. Et on veut être intéressé et on appelle parce qu'on veut, ça va pour vous. Viens, profitez. Ce n'est pas pour juste remplir les sièges, c'est parce que vous avez une place dans nos cœurs. Et si vous avez une place dans notre cœur, et vous n'étiez pas là, qu'est-ce que se passe dans nos cœurs? Et en plus, si c'est notre nouveau cœur, comme en plus, c'est le cœur de Dieu qui a choisi chacun d'être dans une assemblée locale. Donc, abandonnons. On ne va pas négliger parce qu'on voit la présence de Dieu, on voit que c'est précieux, on voit qu'on ne peut pas être familier avec le corps de Christ. Ce n'est pas le temps de tomber. Ce n'est pas le temps d'être faible, ce n'est pas le temps d'abandonner, c'est le temps d'être engagé plus parce que le temps est court. On va finir bientôt. Ce n'est pas très long. Dans ce temps court, laissons, continuons, marchons ensemble, grandissons, apprendons ensemble avec humilité, avec douceur. C'est le temps de marcher, marchons, pas tomber, marchons ensemble. Fortifiez vos frères et sœurs, encouragez de continuer. Exhortons les autres. Qu'est-ce que je suis en train de faire ce matin? C'est une exhortation. Réciproquement, ça veut dire que vous pouvez m'exhorter aussi. Et cette semaine, il y a des gens qui ont fait ça pour moi et j'étais encouragé. Je veux ça. On est dans une bonne place, cette église. On est dans une bonne place. Et on est des bons cœurs pour Dieu. On va finir bien. On va être devant lui. Est-ce qu'on peut croire ça cette semaine? Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce message aujourd'hui. On peut aller au-delà qu'on peut penser parce que tu es un Dieu de au-delà. Oh, merci Seigneur. Prends soin de nous maintenant. Conduis-nous. Encourage-nous, Seigneur. Merci. Aide-nous de méditer sur la parole que nous avons entendue ce matin. Merci Seigneur. Amen.